Laudetur Jesus Christus.
Vous n'êtes pas seul, les mots du pape François dans une lettre aux catholiques de Terre Sainte, une lettre quelques jours avant Pâques pour manifester sa proximité et son espérance dans cette région blessée par la guerre. Nous entendrons la réaction d'un prêtre curé dans le nord d'Israël au début de ce journal. L'Italie veut briser les liens familiaux dans la mafia, un protocole qui permet de retirer les enfants des clans mafieux pour leur offrir un meilleur avenir fait ses preuves dans la péninsule. Les explications à venir. Au sommaire de ce journal, le témoignage d'une religieuse missionnaire en République dominicaine. Elle travaille auprès des migrants qui fuient le chaos du pays voisin, Haïti. Et puis dans notre dossier ce matin, ce jeudi saint, fête de l'Eucharistie et du sacerdoce, gros plan sur la figure d'un prêtre, le père Roger Bamogo est aumônier militaire au Burkina Faso et exerce son charisme et son sacerdoce dans un contexte sécuritaire difficile. Le témoignage, ce sera à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
Bonjour, vous n'êtes pas seul. Les mots forts du pape François à l'égard des catholiques de Terre Sainte, alors que le Triduum Pascal s'ouvre ce soir par la messe de la scène du Seigneur. Le souverain pontife a adressé hier une lettre de solidarité et d'espérance aux 200 000 catholiques qui vivent une semaine sainte endolorie par la guerre au Proche-Orient. François, qui appelle quotidiennement la paroisse catholique de Gaza depuis le mois d'octobre, s'adresse non seulement aux catholiques d'Israël, de Palestine, mais aussi à ceux du Liban, de Jordanie ou encore d'Égypte, les exhortant à demeurer des flambeaux dans la nuit sur la terre du Christ. Le père Elie Kourzoum est prêtre du patriarcat latin de Jérusalem. Il est actuellement curé de la paroisse de Shefamr dans le nord d'Israël. Il réagit à cette lettre du souverain pontife.
Ça fait bien au cœur aussi dans cette situation difficile où nous sommes en train de passer tous ces mois de guerre et de désolation pour une raison qui n'est pas une vraie raison, parce que la vraie raison, c'est la paix. C'est que les deux peuples doivent vivre ensemble et que cette situation, comme dit le pape, de haine qui est en train d'envelopper tout le monde et surtout... C'est pas une cause de sécurité ni pour l'un ni pour les autres, mais une vraie vengeance des uns aux autres. Ce message de pape, peut-être il peut faire l'attention des gouvernants qu'ils pensent vraiment à une solution de paix et de justice pour cette terre. Ça fait peut-être des années qu'on est en train de porter cette croix et on perd pas l'espérance qu'un jour on arrive à cette résurrection et que les responsables aient vraiment la sagesse de trouver une solution pacifique et juste pour tout le monde.
Le père Elie Kourzoum, curé de la paroisse de Shefaam, dans le nord d'Israël, il répondait à Delphine Allaire. Hier, avant son audience générale, le pape avait salué et béni deux amis, Bassam Haramine et Rami Elhanan. Le premier est palestinien et a vu sa fille tuée en 2007 par un soldat israélien. Le second est israélien, il a perdu la sienne dans un attentat suicide 10 ans plus tôt à Jérusalem. Les deux hommes se considèrent comme des frères et donnent des conférences sur la paix dans le monde entier. Si la colère se transforme en vengeance, alors il faut construire deux tombes, l'une pour votre ennemi et l'une pour vous, explique Rami Elhanan. Pensons à ce très beau témoignage de ces deux personnes qui ont souffert du décès de leur fille dans la guerre en Terre Sainte, a dit le pape hier aux fidèles dans la salle Paul VI. Chers frères, merci pour votre témoignage. Dans la bande de Gaza, il est toujours bien difficile, hélas, de parler de paix. Encore faut-il que les bombardements israéliens cessent sur l'enclave palestinienne. Ils ont au contraire redoublé la nuit dernière. Le Hamas parle ce matin de 66 personnes tuées. Mais dans cette guerre, il y a quand même quelques lueurs d'espoir. Ainsi, pour la première fois depuis le conflit, le 7 octobre dernier, des enfants gazaouis ont pu être transférés en Cisjordanie pour y être soignés. Au nombre de 68, ces enfants vivaient à Rafah. Ils ont été pris en charge par l'association Secours aux enfants Bethléem qui s'occupe de leur suivi médical. Une association qui est notamment soutenue par la Conférence épiscopale de la Suisse. Et puis cette guerre fait toujours aussi rage dans le sud du Liban. Des échanges de tirs entre l'armée israélienne et des miliciens du Hezbollah, soutien du Hamas, ont fait hier au moins 16 morts. Partons pour l'Italie où le gouvernement s'attaque aux familles mafieuses. Un programme qui a déjà fait ses preuves en Calabre, terre de la 'Ndrangheta, va être appliqué dans d'autres bastions de la criminalité organisée en Sicile et en Campanie. Ce protocole appelé « libre de choisir » permet de retirer les enfants de mafieux pour leur offrir un avenir loin des parcours criminels auxquels ils étaient destinés. Les précisions de Blandine Hugonnet.
Dans le contexte mafieux où les liens du sang priment, l'avenir des mineurs semble scellé. Un avenir dans le crime, c'est ce à quoi veut remédier ce programme italien. Les enfants de mafiosi sont d'abord repérés et signalés par les services sociaux ou la police. Au cas par cas, la justice italienne commence par ordonner de la psychothérapie ou des cours d'éducation civique. Pour les situations plus graves, s'il est confronté aux armes ou à la drogue, l'enfant est retiré sans préavis et mis à l'abri dans des maisons gardées secrètes. Dans les cas extrêmes, enfin, le juge le fait conduire dans une autre région et placer en famille d'accueil protégé jusqu'à sa majorité. Un moyen radical de couper avec les racines du mal, pensé par un juge calabrais qui raconte avoir vu des enfants forcés de tuer leur propre mère. Il a lancé le projet en 2012 pour enrayer le cycle des mafieux de naissance et les éloigner de cette culture de contrôle et de violence où dès 8 ans, ils apprennent à tirer au pistolet, à cacher et vendre la drogue et à échapper à la police. Sur les terres de Cosa Nostra, à Catane et à Palerme, mais aussi sur celles de la Camorra à Naples, ce sont donc 3 nouveaux services qui vont s'ouvrir. En Calabre, terre de la plus redoutable des pieuvre, la Ndrangheta, 150 mineurs et une trentaine de femmes sont déjà protégées par ce programme, sollicitées aussi par 2 anciens parrains qui ont décidé de protéger leurs enfants des griffes de leur propre clan. À Rome, Blandine Gonnet pour Radio Vatican.
Troisième et dernier jour de la visite d'État d'Emmanuel Macron au Brésil. Le président français a mis en scène jusqu'ici sa relation avec le président Lula, s'engageant notamment à collaborer sur des sujets comme la justice climatique. Hier, le président français a plaidé pour bâtir un nouvel accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Avec plus de 40 milliards d'euros, la France est le 3e investisseur au Brésil. La violence des gangs à Haïti bouleverse les cérémonies pascales à venir. Vu le contexte sécuritaire, l'archevêché de Port-au-Prince a publié une note expliquant que la veillée pascale samedi soir n'était pas obligatoire. Hier, 170 ressortissants français ont été évacués par hélicoptère du pays. De nombreux Haïtiens tentent eux de fuir le chaos et de rejoindre la République dominicaine voisine, où ils ne sont pas les bienvenus. C'est ce que nous explique Sœur Maria Eugenia Vasquez. Cette religieuse missionnaire scalabrienne argentine travaille sur place auprès des migrants.
Nous savons que l'accès aux frontières est très restreint. Le gouvernement ne permet pas aux migrants haïtiens d'entrer. Il n'y a pas de visa haïtien. Les visas haïtiens ne sont pas accordés. Même les consulats dominicains en Haïti sont fermés. Donc les gens qui arrivent viennent de manière irrégulière. Et c'est pourquoi il est très difficile d'avoir des données précises et de dire si leur nombre augmente ou non. Nous travaillons dans la ville de Los Reyes, sur la côte nord-est. Et ce que nous constatons dans la région où nous nous trouvons, c'est qu'une population haïtienne arrive dans les zones rurales. Mais certains d'entre eux sont des migrants qui se trouvaient déjà en République dominicaine et qui, en raison de la question des déportations et d'autres situations, se déplacent vers les zones rurales pour une plus grande sécurité, parce qu'ils risquent d'être expulsés, parce qu'ils ne trouvent pas de travail, etc.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. Direction le continent africain, au Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a remporté l'élection présidentielle avec plus de 54% des voix, selon les résultats officiels publiés hier soir. Il devance de près de 20 points Amadou Ba, l'ancien premier ministre de Macky Sall. Les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel. Au Burundi, le gouvernement a entrepris un recensement des réfugiés et des étrangers dans le pays. La décision a été prise par le ministère de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique. Les motifs de cette entreprise sont peu clairs, mais certains estiment qu'il s'agit d'une opération destinée à traquer les irréguliers installés dans le pays, en l'occurrence des Rwandais. Les relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda sont au plus bas depuis plusieurs mois. Bujumbura, Léonce Bitario.
Les salles d'enregistrement sont pleines à craquer. Les agents recenseurs sont de temps en temps débordés par un grand nombre de réfugiés et étrangers venus pour ce programme de recensement. L'opération se déroule au chef-lieu des zones de la capitale économique Bujumbura, ainsi qu'au chef-lieu des provinces pour tous les étrangers et les réfugiés urbains, sauf pour les réfugiés des camps où l'activité se déroule dans leurs camps respectifs. Selon un communiqué signé Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, tous les étrangers doivent se présenter à ce recensement munis des documents leur permettant de s'établir au Burundi. Le communiqué n'est pas précis sur l'objectif de l'opération. Ce recensement suscite des interrogations chez les concernés qui disent ne pas savoir ce qui va suivre après. L'enjeu majeur serait au niveau de la sécurité pour traquer les irréguliers installés au Burundi. Des attaques armées attribuées au mouvement Red Tabara ont fait des victimes dans des zones frontalières avec la République démocratique du Congo, mais c'est le Rwanda qui a toujours été accusé de soutenir militairement et financièrement ces rebelles. Les frontières entre le Burundi et le Rwanda restent fermées officiellement depuis le 11 janvier. Léon Sebitalio, Bujumbura, Radio Vatican.
Et puis un mot du Tchad où 10 candidats invalidés par le Conseil constitutionnel appellent à empêcher la dictature de Mahamat Déby à l'approche du premier tour de la présidentielle prévue le 6 mai prochain. L'Église commémore donc aujourd'hui l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. En ce jeudi saint, le pape présidera ce matin à 9h30 la messe chrismale dans la basilique Saint-Pierre. À cette occasion, François, évêque de Rome, sera entouré comme chaque année de tous les prêtres de son diocèse appelés à renouveler leurs promesses sacerdotales. Témoignage ce matin d'une figure d'un prêtre, le père Roger Bamogo, en tant qu'aumônier militaire catholique de la première région de Kaya au Burkina Faso. Le père Bamogo s'occupe de l'accompagnement spirituel et moral des militaires appelés à combattre au front contre les terroristes. Il nous partage ce matin son témoignage.
Avant d'aller en mission, ils viennent pour demander des bénédictions. Et ou bien, souvent sur le terrain, quand ils sont en détachement, souvent ils arrivent à faire une petite chapelle. On essaie de les aider à les équiper. Aussi, bon, souvent, on leur envoie des textes. Au niveau de l'accompagnement social, nous essayons d'occuper la place des hommes quand ils ne sont pas là pour être aux côtés des familles.
Quelles sont les difficultés les plus pointues que vous rencontrez dans votre apostolat dans un contexte de crise sécuritaire?
Avec la situation sécuritaire, il arrive souvent qu'il y ait des hommes qui tombent sur le front. Et en tant que prêtre, quand tu te retrouves devant une dizaine de cercueils, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, même on a déjà fait, bon, c'est pas simple. Les conditions dans lesquelles ces gens sont tombés, ça alourdit la douleur. Quand on rencontre ces gens et qu'ils nous racontent les difficultés qu'ils vivent dans les détachements, l'austérité et surtout aussi la menace de la mort qui plane sur eux. Et en plus, en tant que chrétien, le problème de ne pas tuer revient alors que leur mission les amène souvent à éliminer l'ennemi. Donc, c'est des moments quand même où, en tant que prêtre, souvent j'allais dire même, bon, c'est l'Esprit Saint qui vient au secours. Tu ne sais pas quel mot juste placer pour encourager la personne, l'aider à remonter la pente.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou touché dans cet apostolat si particulier?
Dans mon apostolat, et une fois, on est allé en détachement à Djibo. C'était à quelques jours de l'attaque d'Inatan. Quand on est arrivé, d'abord, quand je voyais les gens dans le détachement, j'ai dit, c'est une zone reculée, une zone où la menace est. À regarder le visage, tu sens que c'est pas des gens qui sont joyeux. C'est une situation vraiment d'inconfort. Vous savez, nous sommes en Afrique. Souvent, dans cette situation, il faut des trucs de protection. Alors que les catholiques, nous, on dit, il faut compter sur Jésus-Christ. Il y a des gens qui nous disent, voilà, on m'a proposé ceci. Qu'est-ce que je fais? Ceux qui arrivent à poser cette question, ça veut dire, c'est des gens qui font une lutte interne. C'est des questions quand même où il faut pouvoir dire quelque chose.
Et dans de telles circonstances, comment vous arrivez à communiquer le message du Christ?
Bon, on essaie de présenter la chose telle que l'Église nous enseigne. On essaie de leur dire de mettre la confiance en Jésus-Christ. Voilà. Heureusement aussi, on a des retours qui encouragent. Quoi. Les gens aussi disent vraiment, mon chapelet, mon dizainier, ou bien la médaille de l'archange Michel que vous m'avez donnée, ainsi de suite. En tout cas, à un moment donné, ça m'a aidé.
En ce jeudi saint qui commémore l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, comment entendez-vous offrir la grâce de l'Eucharistie au cœur blessé des Burkinabés?
En ce jeudi saint où Jésus nous a laissé ce sacrement de salut, c'est l'occasion pour nous d'engager les fidèles chrétiens, de tourner notre regard vers le Dieu Tout-Puissant pour lui rendre grâce d'abord pour la vie. Parce que même dans ce contexte du terrorisme, on rend grâce à Dieu et on implore sa miséricorde vraiment. Je dirais que Dieu est toujours fidèle. Souvent, quand c'est dur, nous avons tendance à nous lamenter, mais il veille toujours. Je pense et je crois qu'il n'est pas insensible et que tôt ou tard, en son temps, il nous répondra favorablement. La guerre finira, la cohésion sociale d'antan que nous avions reviendra, surtout la ferveur des gens dans les églises reprendra de plus belle.
On va l'interroger par Myriam Sanduno. Le père Roger Bamogo, aumônier militaire catholique au Burkina Faso, était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous à 9h25 en direct sur notre site et notre page Facebook pour la messe chrismale présidée par le pape François depuis la basilique Saint-Pierre. Je vous souhaite une excellente journée.